m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ah. Et même la parole qui peut être parfois... on peut être saoulé par des paroles, mais la parole de Dieu, elle vivifie. Alors moi, elle m'a vivifié encore, et je prie qu'elle vous vivifie maintenant encore. Je pense que mes amis coréens du château, sauf Johan peut-être qui n'a pas entendu, mais vous n'allez pas m'en vouloir, si je reprends une méditation que j'ai donnée il y a 15 jours à Thumri, en y rajoutant des petites choses quand même, parce que je sens que c'est toujours là et je sens que c'est pour toute l'Église aussi. Voilà, effectivement, il y a 15 jours, j'étais à Thumri. Vous savez qu'à Thumri, il y a un témoignage chrétien très fort. Il y a beaucoup de chrétiens qui habitent Thumri. Il y a donc l'équipe là du château avec Nadège, avec toute la vague, Claire, Boaz, Ara, Elena. Il y avait Joanne qui est toujours en lien. Ouais. Et il y a Gérane qui va revenir bientôt aussi. Bon, Robert et Sylviane sont toujours très proches du château aussi. Il y a un deuxième lieu porteur qui est à côté, c'est le château Paradis, tenu par Chris et Nora Morton. Et donc, il y a des cultes maintenant là. Alors, vous savez, donc nous, par la présence de Robert, de Sylviane, de la vague, de Nadège, donc, il y a un lien, forcément, mais je crois que ce lien, il faut l'entretenir. Je sens que nous devons le nourrir, l'augmenter peut-être. Hein. Nous avons des points communs, Thumri et Wavrin aussi. Thumri et Wavrin, c'est un peu des communes dans un même, je dirais, contexte, environnement. Et alors donc, j'étais invité il y a 15 jours pour apporter une petite méditation. Lors de cette rencontre. Et pour cette méditation, je suis parti d'un mot que j'ai découvert, que je ne connaissais pas bien, ce mot. Je l'ai découvert parce qu'un ami, un ancien collègue de travail, nouvellement converti à Jésus, m'avait envoyé une vidéo il y a quelque temps. Et la vidéo, c'était une conférence sur le leadership vertueux. Oh. Bon, je dis tiens, ça m'intéresse. J'ai écouté ça, et c'est lors de cette écoute que j'ai découvert ce mot. Et c'est comme la douce voix du Saint-Esprit qui me disait Jean-Luc, j'aimerais bien que tu parles là-dessus, sur ce mot. Je vous l'ai pas encore dit, je vais vous le dire dans peu de temps. Ouais. Vous allez être surpris parce que c'est pas un mot qui sonne parfois très bien, mais voilà. Et donc je commence ce mot. Enfin, je vais vous le dire. Oui, je vous le dis maintenant. Allez, ce mot, c'est ce mot magnanime. Magnanime. Ouais. Et alors celui qui faisait cette conférence disait que c'est une vertu. Qu'il estimait que c'était la vertu la plus importante pour un leadership. Il l'a placée au-dessus de toutes les autres. Le courage, la franchise, etc. Voilà. Il estimait que c'était une vertu, que c'est une vertu dont notre pays a besoin. Alors, véritable découverte. Hein. Alors, je commence à prier pour demander confirmation, puis je commence à trembler. Je dis, Seigneur, tu veux vraiment que je parle là-dessus? Sur le mot magnanime, franchement. Mais j'avais été touché par ce qui était dit sur ce mot, par la définition, on va y venir. Hein. Mais le doute s'installait en moi. J'ai vérifié dans ma Bible, est-ce qu'il se trouve au moins dans la Bible? Vous savez, il y a quelquefois des mots qui ne sont pas dans la Bible, mais comme nouvelle naissance, conversion, ça se trouve très peu. Hein. Mais pourtant, c'est important. Eh bien, figurez-vous qu'il n'est pratiquement pas, sauf une fois, dans l'Ancien Testament, en Ésaïe, où il est dit « On n'appellera plus le fourbe magnanime ». Bon, je dis quand même « Seigneur, c'est un peu court ». Et puis je continue à prier. Et la paix, elle revient. La paix de Dieu revient. comme une confirmation. Si, 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 si. C'est bien là-dessus que tu dois parler. Bon. Alors, je poursuis mes recherches. Et là, je découvre. Waouh! Je découvre que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament dans une traduction qui n'était pas dans ma liste des traductions, dans ma Bible online. Elle n'y était pas. Mais elle est utilisée dans la nouvelle version seconde édition d'études. Et dans un verset, pas des moindres, à la fin d'un paragraphe sur l'amour des ennemis. Et ce verset, c'est Luc 6, 35, et j'en fais le titre de mon message. « Soyez magnanimes comme votre Père est magnanime. » Ah ! J'ai dit « Merci Seigneur, c'est une confirmation. Waouh ! Si tu as conduit des exégètes scrupuleux à prendre ce mot, dans un souci d'être plus près du texte original, c'est qu'il est important. Alors, dans la plupart des versions, de nos versions, c'est le mot miséricordieux. Ou parfois, plein de compassion. Alors, vous allez voir qu'en cherchant le contenu de ce mot, vous allez voir que, sans aucun doute, la magnanimité est un fruit de l'Esprit-Saint. Alors, qu'est-ce qu'être magnanime, hein ? Figurez-vous qu'il y a un ancien Aristote qui en parlait déjà. Aristote en parlait. Il disait, en son temps, le magnanime est nécessairement vertueux, courageux. Il n'est même que médiocrement touché des honneurs et des dignités, étant accoutumé à n'attacher que peu d'importance à tout ce qui séduit les âmes vulgaires. Il est bienfaisant, franc, sincère dans son langage, peu empressé à parler des autres ou de lui-même, ou à se plaindre des torts qu'on a envers lui. Il ne veut recevoir de bienfaits que pour en rendre à son tour des plus grands. Loin de rechercher ce qui rapporte, il préfère le désintéressement à l'utilité. Il ne se permet aucune bassesse. Il réprouve l'injustice. Ouais. Il ignore le mensonge et il évite même toute plainte. Cela, non pas pour une vaine satisfaction d'amour propre, mais par amour du bien et de la vertu. Vous savez, dans l'histoire de notre pays, et même au-delà certainement, on admettait que cette vertu était une vertu de roi. Et qu'il fallait que chaque roi la mette en pratique. Dis donc, on est des fils et des filles de roi, hein ? On est tous des fils et des filles du roi des rois. Hein ? Mais certains ont écrit que la magnanimité est pour tous, selon les talents et les biens de chacun, elle plonge ses racines dans ce qui est à l'origine de toute charité. Alors, après ce commentaire d'Aristote et puis d'autres petits commentaires, écoutons les définitions officielles. Alors, j'ai pris orthodidacte et Wikipédia. Alors, le mot magnanime vient du latin et est composé de deux termes. Magnus, qui signifie grand, et animus, qui signifie âme et esprit. Donc, au sens premier, magnanime est un adjectif qui signifie donc grand d'esprit, qui a de la grandeur d'âme. Et aujourd'hui, magnanime aussi qualifie une personne qui fait preuve de bonté, de générosité, particulièrement envers les faibles ou les vaincus. Magnanime est synonyme de clément, indulgent, généreux, bienveillant. Oh, j'aime beaucoup ce mot, bienveillant. Il sonne d'ailleurs mieux que magnanime. Bon, chevaleresque. Alors, Wikipédia maintenant. La magnanimité est ce qui pousse à agir de façon désintéressée et avec pleine conscience de ses possibilités à réaliser ou incarner un idéal. Elle est aussi vertu de clémence, générosité, indulgence envers le faible. C'est une vertu exprimée donc principalement en deux sens. Dans le premier, elle a pour synonyme la grandeur d'âme ou l'héroïsme. Dans le deuxième, elle a pour équivalent l'empathie ou la pitié. Voilà. Donc il y a bien ces deux notions. Grandeur d'âme, c'est-à-dire que le cœur, la volonté, l'intelligence sont tournés vers de grandes choses. Et une grande générosité. Le magnanime est à la fois généreux, fort et humble. D'ailleurs, la pensée chrétienne souligne le lien important entre humilité et magnanimité. La grandeur d'âme, elle vient de la conscience qu'on est un être spirituel, et l'humilité vient bien sûr de la conscience de nos défauts. C'est Thomas d'Aquin qui a dit ceci au sujet de la sainteté. Les saints sont à la fois humbles et magnanimes. La magnanimité sans l'humilité, elle conduit à l'orgueil. L'humilité sans la magnanimité conduit à l'inaction ou la démission. Alors, à la lumière de cette définition, comment entendre cet appel qui est le fil conducteur de ce message? Soyez magnanime comme votre Père est magnanime. Alors d'abord, on souligne que la magnanimité est le caractère de Dieu. Vous êtes d'accord, hein? C'est le caractère de Dieu. Mais voici ce qu'on peut entendre. Donnez-vous à l'imitation de la grande générosité de Dieu votre Père. Donnez-vous à l'imitation de la grande générosité de Dieu votre Père. Avec notamment cette capacité à dépasser la rancœur suite à l'offense et de pardonner. Encore une fois, c'est indiqué cette injonction juste à la fin d'un chapitre sur l'amour des ennemis. Ça veut dire tourner votre cœur, votre volonté, toute votre intelligence vers le royaume de Dieu, vers le règne de Jésus. Et je crois que source de vie, Église chrétienne, devenons des éducateurs de la magnanimité. Ah, ça c'est vraiment un objectif. En termes plus habituels, soyons des enfants de lumière, révélant le caractère de Dieu, du Christ, par notre grandeur d'âme et notre grande générosité. Contemplons la vertu de la magnanimité. Plus nous la contemplons à travers, bien sûr, la contemplation de Dieu, du Christ, plus nous la désirerons, plus nous la cultiverons. Et on doit veiller aussi à créer, rester dans un environnement magnanime qui nourrit notre amour, notre vision de la grandeur de Dieu, qui nourrit notre amour pour lui et pour ses desseins. Ici, à Source de Vie, veillons à instaurer, cultiver, garder un environnement magnanime. Que notre louange, notre adoration, nos prières, nos exhortations, enseignements, communion fraternelle soient toujours l'expression du Dieu magnanime, du Dieu grand, merveilleux, du Dieu plein de générosité. Est-ce que vous comprenez que l'environnement magnanime, c'est un rempart contre les divisions? C'est un rempart contre les divisions amorcées par des comportements charnels, où l'on manque de désintéressement, justement, où on cherche sa propre gloire au lieu de celle de Dieu. Plus on sera nombreux à développer ce caractère magnanime, plus on va réussir à atteindre cet objectif d'être un seul cœur, une seule âme. L'environnement magnanime nous stimulera dans cette capacité de rêver de grandes choses pour Dieu. Si Robert, il était là, il dirait Amen. Robert rêve. Ouais, lui qui aime prêcher là-dessus. Mais oui, je crois que l'environnement magnanime nous stimule dans la capacité de rêver de grandes choses pour Dieu, mais aussi de transformer nos rêves en actions. La magnanimité nous fait retrouver le sens de la mission. Ouais. Dans la rencontre entre qui nous sommes, notre histoire, et avec ce qui se passe autour de nous. Un exemple, Néhémie, dans la Bible, quand il voit les ruines de Jérusalem, les portes, les murailles détruites, il réfléchit, il voit ces ruines et il prend conscience de qui il est, son peuple, l'histoire de son peuple. Et il rêve de reconstruire, de rebâtir. Et il transforme son rêve en action. Il est poussé à l'action. Notre conférencier dont j'ai parlé là au début de cette méditation disait sa conviction, la magnanimité, c'est la vertu dont l'homme moderne a besoin. Elle a sa source en Dieu, forcément. C'est dans un environnement magnanime, hein, à la fin de l'année 1976, dans un congrès missionnaire, qu'Annette et moi avons été saisis par l'Esprit de Dieu, par ce sens de la mission, et avons répondu à un appel pour nous donner entièrement à cette mission. C'est encore dans un environnement magnanime qu'en 87, lors d'une retraite avec Jeunesse en Mission, je pense que Didier, tu étais là, ou peut-être là, oui, je crois que tu étais là. J'étais saisi par l'appel à se mettre en route pour ce témoignage ici, à Wavrin, d'église, et dans sa région. C'est toujours dans cet environnement magnanime qu'on s'est réunis. Rappelle-toi Didier, Sylvie aussi, à plusieurs dans la prière, à la Fermette, à Wattignies. Puis dans différents villages du secteur entre 88 et 93, pour louer Dieu et appeler son royaume dans ces petites villes et villages. Et je pourrais encore parler de l'environnement magnanime au Château Blanc, qui a déclenché des retraites spirituelles où on a reçu de grandes bénédictions. Et comme ce message est enregistré, je m'adresse à ceux qui vont écouter, mais qui sont loin des églises, déçus par elles, blessés. Attention à l'isolement qui nous tient généralement loin des gens passionnés pour Dieu, par Dieu, loin des gens magnanimes. Alors cet isolement nous fait perdre le sens de la mission, celle d'annoncer le plein évangile, mais aussi de percevoir sa destinée, de discerner son appel spécifique et participer ainsi au travail de réparation des brèches dans des vies et dans des cités. Il est facile de perdre le sens de la mission en s'éloignant de gens magnanimes, de gens passionnés qui rêvent pour Dieu. Et je crois qu'en ce sens, il ne faut pas se contenter toujours de rester dans la même église, mais il faut aussi aller rejoindre de temps à autre, c'est pour ça que le Château Blanc, il y a ses retraites, mais ailleurs, de temps à autre, de temps en temps, rejoindre d'autres personnes passionnées, magnanimes, à l'image de Dieu. Alors, j'arrive à la conclusion. Souvenons-nous que l'apôtre Pierre, dans l'une de ses lettres, il exhorte les chrétiens à ajouter à leur foi la vertu. Alors je nous encourage ce matin à ajouter à notre foi la vertu de la magnanimité. Ouais. On est encore une semaine après le week-end de Pentecôte. Souvenir de la première grande effusion du Saint-Esprit. Demandons à Dieu ce déversement de l'Esprit-Saint pour faire de nous des hommes et des femmes magnanimes. Pour que se lève dans notre pays. Est-ce que vous priez pour ça ? Dans un an, c'est les élections présidentielles. Et si on ne fait rien ? Qui va arriver ? Qui va être candidat ? On peut prier pour ça, pour que se lèvent des hommes et des femmes magnanimes pour contrebalancer. Alors jusqu'au plus haut sommet de l'État, mais en dessous aussi. Hein. Pour contrebalancer les esprits de haine et de violence qui cherchent à s'infiltrer partout. Et pour rebâtir notre pays et le mener dans sa destinée. Paul dit dans Romains, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Et moi j'entends, la création soupire après la révélation des magnanimes. Qui rêvent pour Dieu, qui ont cette vision de la grandeur de Dieu, qui ont cette grande générosité à l'image du Père, avec cette capacité de passer les offenses, mais de chercher la gloire de Dieu, désintéressé par les honneurs, les gloires, les places personnelles. Soupirons, nous aussi, à cette révélation. Et soyons la réponse aussi. Attendons des hommes et des femmes magnanimes, mais soyons nous-mêmes ces hommes et ces femmes magnanimes. Alors je vous propose une prière très connue et qui traduit bien, à mon sens, le caractère magnanime de celui qui l'a écrite. Alors cette prière s'appelle la prière de François d'Assise. Mais figurez-vous, j'ai fait quelques recherches, il paraît que ça ne serait pas lui qui l'a écrit. Il paraît que ça serait un anonyme au début du XXe siècle. Mais on l'attribue à François d'Assise, pourquoi ? Je ne sais pas là. Là, je n'ai pas approfondi mes recherches. Mais cette prière a été traduite dans toutes les langues presque. Elle a été reprise dans plusieurs chants, adoptée comme la prière par excellence des scouts, adoptée par les catholiques comme les anglicans et aussi les protestants. Mais qu'importe que ça soit reconnu ou pas reconnu par les hommes, l'important pour nous, c'est que nous soyons sous l'inspiration du Dieu magnanime. Et je crois que cette prière que vous avez certainement entendu parler, elle est là. Voilà, vous la connaissez. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Ben, j'ai envie qu'on la proclame ensemble. Elle reflète tout à fait le caractère magnanime de celui qui l'a écrite. C'est beau cette prière. Ah, vous ne trouvez pas que pour contrebalancer la haine, la violence qui se répand, nous devrions incarner cette prière de plus en plus. Oh Seigneur, je vais la lire une première fois puis on la lira tous ensemble. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Je vous invite à vous lever et on va la proclamer ensemble, une déclaration. C'est une façon de dire notre oui à l'injonction du Seigneur ce matin. Soyez magnanimes comme votre Père est magnanime. Soyez magnanimes. Voilà. Soyez, que le Seigneur ouvre nos cœurs et notre esprit à sa grandeur, à sa merveille, à sa merveilleuse bonté, et que nous imitions par l'Esprit Saint, bien entendu, sa merveilleuse et sa grande bonté. Amen. On y va. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.